Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le discours du président libanais a déçu la population. Une nouvelle manifestation a eu lieu hier à Beyrouth. Notre correspondante y était.
La colère aussi des habitants du Venezuela. Ils subissent des coupures d'électricité. Reportage à Caracas.
Des villageois qui jettent des pierres sur un autocar transportant des demandeurs d'asile. Ça s'est passé en Grèce, nous y reviendrons. À Belfort, les sous-traitants de General Electric demandent 5 millions d'euros au gouvernement. Ils ont peur d'être les oubliés du plan social. Et la question du jour, Guillaume.
Eh bien Margot, ça sera dans une dizaine de minutes. Pourquoi exhumer le général Franco ? On posera la question à une hispaniste, Marie Franco.
Son discours à la nation n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Hier, le président du Liban s'est dit prêt à rencontrer les représentants des manifestants, bien qu'il n'existe pas de leader du mouvement de contestation qui secoue le pays. Une partie de la population est mobilisée depuis plus d'une semaine à l'annonce d'une taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. Le régime, cher jeune, ne peut être changé sur la place publique, a répondu Michel Aoun à ceux qui réclament le départ de l'ensemble de la classe politique. Chloé Doma.
Au centre-ville de Beyrouth, point d'orgue de la contestation, le président de la République n'a pas convaincu. Dès le discours terminé, les Libanais reprennent leur slogan et laissent exploser leur colère.
Ils n'ont pas honte, tout le monde leur demande de partir. Ces gens nous ont tués, ils nous ont affamés, méprisés. Même l'éducation est perdue. Partez, laissez-nous.
Le chef d'État s'est dit prêt à dialoguer avec les manifestants sans proposer de solutions concrètes. Mais dans un pays où un tiers des ménages vit dans la pauvreté et où les services publics sont quasiment inexistants, beaucoup, comme Raed, attendaient plus.
Je suis déçu de notre gouvernement parce qu'ils ne sont pas du tout à l'écoute. Et je pense qu'ils ont cru que cette manifestation, ça va passer juste pour quelques jours. Ou bien une semaine, après tout le monde va rentrer chez lui.
Les manifestants l'ont dit, ils ne reculeront pas. Banques, écoles et universités restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Des mobilisations sont prévues vendredi et ce week-end, partout dans le pays.
Des manifestations qui devraient se poursuivre également en Bolivie. 99,9% des bulletins de vote ont été dépouillés après les élections de dimanche. Et le président sortant, Evo Morales, au pouvoir depuis 2006, est donné vainqueur dès le premier tour. Un dépouillement contesté, son principal adversaire dénonce une manipulation du scrutin. L'Union européenne réclame la tenue d'un second tour pour s'assurer du respect du choix démocratique des Boliviens. Nous y reviendrons dans le journal de 8h de France Culture et la revue de presse internationale un peu avant, à 7h35. Evo Morales, félicité pour sa victoire par le Venezuela, autre pays d'Amérique du Sud, qui lui traverse la pire crise politique et économique de son histoire récente. Dans les rues de Caracas, hier, deux types de manifestants, les partisans de l'opposition qui défilaient contre la crise électrique dans le pays, et ceux du gouvernement qui dénoncent une ingérence impérialiste. Si les deux camps sont d'accord pour dire que les coupures de courant sont une catastrophe, ils ne s'entendent pas sur l'origine du problème, Benjamin Delisle.
La place Francisco de Miranda, où l'opposition s'est donné rendez-vous, est à moitié pleine. Les manifestants expriment leur ras-le-bol face aux coupures à répétition, avec une pensée toute particulière pour l'état de Zulia et la ville de Maracaibo, de loin les plus affectées. C'est là que vit Manuel, venu spécialement pour la manifestation.
Le quotidien à Maracaibo, c'est 12 heures sans électricité par jour, plus d'eau courante depuis des mois, des magasins qui ne peuvent plus ouvrir. La situation à Maracaibo est chaotique.
Les opposants ne sont pas seul un groupe de chavistes leur fait face, entonne des chants contre l'impérialisme nord-américain. Manuel peste face à ce qu'il estime être une provocation, une manière de détourner l'attention.
Ils trouvent toujours de nouveaux coupables. Ils ont dit que c'était la faute d'un iguane, d'attaque électromagnétique de l'impérialisme, du phénomène climatique El Niño. Mais ils n'assument pas leur responsabilité dans le manque d'entretien de l'industrie électrique.
Daniel, un jeune chaviste, s'en défend. Il assure que le gouvernement fait de son mieux.
L'opposition a le droit de manifester tant qu'elle reste pacifique, mais elle devrait réclamer à l'Empire nord-américain de lever le blocus et les sanctions pour laisser l'État vénézuélien trouver des solutions aux failles du système électrique.
Finalement, les chavistes quittent la place pour rejoindre leur propre manifestation dans le centre-ville. Quelques huées accompagnent leur départ, mais le climat reste apaisé. Les passants observent la scène, désabusés. Comme la majorité des Vénézuéliens, ils ne se sentent même plus concernés.
La correspondance de Benjamin Delisle à Caracas. Dans une lettre au chef de l'opposition travailliste, le Premier ministre britannique lui demande d'accepter des élections législatives anticipées. Boris Johnson a proposé hier la date du 12 décembre. Voilà sa condition si le Parlement veut plus de temps pour étudier le contenu de la loi sur l'accord du Brexit. Boris Johnson a été contraint de demander un report de 3 mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Report sur lequel Bruxelles doit encore se prononcer. Le Brexit et les migrants figurent parmi les dossiers les plus importants de l'Union européenne. La Grèce connaît à nouveau un fort pic migratoire. Les centres d'enregistrement sur les îles sont saturés. Il faut donc trouver d'autres lieux d'hébergement, ce qui provoque des tensions. Cette semaine, un autocar transportant des demandeurs d'asile a été accueilli à coups de jets de pierre par des villageois. Angélique Coronis.
Route barrée, jets de pierre, insultes, rien ne sera épargné aux 380 demandeurs d'asile évacués du camp surpeuplé de l'île de Samos. Si les Samiotes ont été soulagés de les voir partir, les habitants de Neavras, dans le nord du pays, l'ont été beaucoup moins de leur arrivée. Ils se sont violemment opposés à l'installation près de leur village de ces familles et personnes vulnérables, avec en première ligne des contestataires, la mairesse du village et le POP. Leur violence et détermination étaient telles que le bus qui transportait ces damnés de la terre a dû rebrousser chemin malgré la présence de la police. Fermer les frontières, chasser les clandestins, étrangers dehors, étaient quelques-uns des slogans vociférés par des dizaines de villageois en colère. L'Organisation internationale de migrants s'est déclarée très inquiète de ces violences qui ne sont plus des faits isolés. À l'île de Lesbos, des parents d'élèves ont refusé que des enfants migrants soient inscrits dans des écoles, même scène dans les écoles de la banlieue d'Athènes, mais à chaque fois, le dialogue ouvert par des militants et des professeurs est venu à bout des résistances xénophobes. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui ne cesse de demander plus de solidarité à l'Europe sur ce dossier, a promis de renvoyer 10 000 migrants en Turquie d'ici 2020 et dans un même temps, il continue d'évacuer les demandeurs d'asile piégés sur les îles. 20 000 places devraient être créées sur le continent, mais cela ne règle pas le problème posé par les arrivées constantes des réfugiés. Cela le déplace et cela ne peut en aucun cas, selon la presse grecque, remplacer une politique migratoire à l'échelle européenne qui reste à créer.
Angélique Coronis. 50 000 Californiens ont été évacués à cause d'incendies. Un feu s'est déclaré dans une région viticole au nord de San Francisco mercredi et a déjà brûlé plus de 2000 hectares. Des bourrasques dépassant les 120 km/h empêchent les pompiers de le circonscrire. D'autres incendies touchent le sud de l'État américain.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Après de nombreuses mises en garde, la justice européenne condamne la France pour sa qualité de l'air.
La France doit faire des efforts pour limiter les émissions de dioxyde d'azote dans une dizaine de zones allant de Paris à Nice. Partout où depuis 2010, elle a systématiquement dépassé le seuil limite de ce gaz polluant. La justice européenne redoute un problème de santé publique, Laura Lavenne.
Un problème de santé publique qu'incarne à lui seul le dioxyde d'azote, un gaz issu des voitures diesel et dont les effets sur la santé sont largement sous-estimés selon le docteur Thomas Bourdrel. Il fait partie de l'association Santé Environnement France.
Ce fameux NO2, donc le dioxyde d'azote, c'est un gaz extrêmement toxique qui va être responsable de bronchiolite et de maladies asthmatiques chez l'enfant. Chez le nouveau-né, on sait que ça va altérer sa croissance de ses poumons. Et on sait maintenant que ce dioxyde d'azote, il va favoriser en fait la survenue d'infarctus et également d'accidents vasculaires cérébraux. Mais c'est également un des principaux précurseurs d'ozone.
Médecin, mais aussi fondateur du collectif strasbourgeois Respire, il estime qu'il faut limiter, voire totalement interdire la circulation des diesels. Ce à quoi s'est engagé la ville de Strasbourg à l'horizon 2025, mais il s'agit maintenant d'aller plus loin, partout sur tout le territoire français. C'est en tout cas le sens que Thomas Bourdrel donne à la condamnation en manquement de la France.
Moi, je pense que la Cour européenne de justice envoie un message en disant aux citoyens, l'air que vous respirez à Strasbourg, à Paris, à Marseille n'est pas légal, vous avez un pays qui ne fait pas assez, donc saisissez-vous de la justice.
De son côté, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, assure que le gouvernement est déterminé à améliorer rapidement et durablement la qualité de l'air, que des actions ont été engagées et que d'autres suivront, suffisant ou non, ce sera à la Commission européenne d'en juger.
La Commission qui pourra, si elle le décide, de nouveau saisir la justice avec cette fois une sanction financière à la clé. À Rouen, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol où 9000 tonnes de produits, souvent chimiques, ont brûlé, il n'est toujours pas possible de déterminer la localisation précise du départ du feu. C'est ce qu'a affirmé hier le procureur de la République de Paris dans un communiqué. Le Premier ministre Édouard Philippe doit se rendre sur place aujourd'hui. Le ministre de l'économie lui recevra bientôt un courrier sur son bureau signé par les sous-traitants de General Electric à Belfort. Une trentaine d'entreprises en tout, soit environ 1500 salariés qui s'inquiètent des répercussions du plan social. Elles déplorent une baisse de leurs affaires avec GE de l'ordre de 30 à 40% selon les informations de France Bleu Besançon. Leur représentant, la Vallée de l'énergie, va demander 5 millions d'euros au gouvernement. Dominique Balduini, son président.
Alors, il ne faut pas dire que les 1500 salariés vont disparaître, mais on peut dire que s'il y en a 500 qui sont menacés chez General Electric, il y en a à peu près 500 qui sont menacés chez les sous-traitants directs. On a fait une cartographie des 30 sous-traitants majeurs de General Electric, c'est-à-dire ceux qui réalisaient plus de 20% de leur chiffre d'affaires avec l'entité General Electric Gaz. Cette étude a montré que les sociétés réalisaient avant la crise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 80 millions d'euros avec General Electric, et qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40 millions d'euros qui se sont envolés. Donc pour les sous-traitants, il faut retrouver des affaires. Nous, ce qu'on a demandé, c'est de pouvoir bénéficier de 10% des fonds MOGIS. Alors je vous rappelle que les fonds MOGIS, c'est la pénalité que General Electric s'était engagé à verser. Donc nous, on demande 5 millions d'euros pour embaucher des commerciaux de haut vol qui prospecteraient au niveau mondial dans un certain nombre de marchés.
Dominique Balduini, président de la Vallée de l'énergie, au micro de Wassila Guitoun de France Bleu Besançon. Météo France a levé la vigilance orange dans tous les départements. Quelques petites pluies sont attendues aujourd'hui en Normandie et en Bretagne. Ailleurs, il fera gris, sauf autour de la Méditerranée et des Pyrénées. Là, vous aurez beaucoup de soleil. En Corse, en revanche, le temps est toujours instable. Il fait ce matin entre 8 et 13 degrés dans le nord, jusqu'à 16 dans le sud. Cet après-midi, Météo France prévoit 15 degrés à Lille, 16 à Paris et Brest, 18 à La Rochelle et 22 degrés à Ajaccio.